Bon, plus sérieux maintenant, peut-être. Il y a du rire sur Radio Esperanza, puis il y a aussi beaucoup de choses beaucoup plus sensées, on va dire, avec des thématiques qui, depuis 10 ans, ont été défendues par le festival. Ça a commencé, nous, en 2004. C'était quoi à l'époque, Julien?
C'était Annulons la dette et c'était en partenariat avec la grande campagne que faisait malheureusement pendant un an le CADTM, mais qu'il n'a pas cessé de faire depuis. Et à cette occasion-là, Étienne, on a rencontré plusieurs protagonistes du CADTM on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de rappeler Myriam Bourgui du CADTM pour faire un point sur la dette, puisque c'est toujours un sujet d'autant plus d'actualité maintenant. En tout cas, à l'époque, on avait croisé dans le village associatif Denise, notamment.
C'est assez marrant cette histoire de dette parce qu'on se rend compte qu'en 2004, c'était encore une histoire un peu d'hurluberlu de parler de la dette des pays du tiers-monde, ça paraissait lointain, etc. On était complètement rattrapé par cette actualité-là en Europe et c'est assez intéressant de réécouter ces archives. C'était avec François Mauger et Denise Coman, donc porte-parole du CADTM, qui nous a quittés l'année dernière, le 28 mai. On est très triste et on pense vraiment à elle et à son mari, Éric Toussaint. Voilà.
Voilà,
On
on va
écoute.
pas. Alors, puisqu'on n'a pas le droit de faire beaucoup de blanc dans la radio, mieux vaut ressortir l'archive plutôt qu'une minute de silence.
Moi, il s'avère que je suis producteur de disques, ça me donne l'occasion d'aller régulièrement en Afrique ou en Amérique latine, et puis de m'apercevoir que chaque fois que j'y vais, la situation est pire. Alors, chaque fois, je me demande si c'est moi qui ouvre les yeux un peu plus grands ou si c'est la situation qui empire. Il semblerait statistiquement, effectivement, la situation empire, qu'en fait, l'Afrique soit en train de s'appauvrir. Et je me suis demandé, comme tout citoyen à peu près responsable, ce que je devais faire. Et je me suis dit, bon, j'ai un métier qui est producteur de disques, essayons de produire un disque. J'en ai parlé aux copains qui sont musiciens africains, qui m'ont dit, bah bien sûr, si tu fais ça, on te suit. Et d'où, après un an de travail, cette parution d'un disque avec une quinzaine d'inédits, 16 inédits en fait, des musiciens d'Afrique, des musiciens d'Amérique latine et quelques musiciens d'Europe pour dire non à l'annulation de la dette. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ont choisi d'écrire leurs propres chansons. Ce qui veut dire que la dette, qui est pas un sujet extrêmement poétique en soi, c'est des finances, donc c'est un truc assez ennuyeux pour pas dire pire, quoi. C'est des chiffres et c'est vraiment pas poétique. Eux ont choisi de le transcrire dans des mots et avec des sentiments qui leur sont personnels, en parlant de choses qui ont des rapports avec la dette, en parlant de leurs enfants, en parlant de l'agriculture, en parlant de la liberté démocratique. Et donc ça fait vraiment ce problème de la dette vu par des gens d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Europe, mais de façon très personnelle à chaque fois.
On est dans le concret là, on est dans le concret des problèmes que peuvent rencontrer les gens à cause de cette dette qui les assaille, quoi.
Oui, c'est ça qui est un peu difficile à saisir, c'est que la dette, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait en soi. Enfin, si on parle d'économie ou de finance, c'est quelque chose d'abstrait. Mais pour un paysan africain, c'est quelque chose de très concret. Même s'il fait pas forcément le rapport, parce que malheureusement, il manque d'informations et on essaye de faire tout ce qu'on peut pour la diffuser, notamment des chansons. Il fait pas toujours le rapport, mais la dette, il la paye tous les jours. Quand il va à l'école, dans une école où il y a 100 gamins dans une classe pour un seul professeur et qu'il y a 12 chaises et puis il y a un tableau noir qui date des années 50, ça, c'est la dette. C'est une des conséquences de la dette parce que son gouvernement n'a plus rien à investir en éducation parce qu'il rembourse trop de dettes. Même chose quand il est obligé de se taper des routes pas goudronnées pendant 50 km avant d'arriver à un hôpital, ça aussi c'est la dette.
Alors par exemple vous, François Mauger, vous parliez des textes qui étaient très concrets à l'instant même. Il y en a un qui vous a marqué particulièrement, il y a une histoire dans ce qu'ils ont dit qui vous reste en tête?
Oh bah ch chacun a un texte assez personnel parmi tous les textes. Il y en a un qui est très populaire, c'est celui de ZS parce qu'il est en français, ce qui fait que nous on le comprend et qu'il a un refrain assez... qui est à la fois entraînant et terrifiant, qui dit que la Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. Vous allez le voir en concert à Esperanza, vous allez voir qu'au bout de 5 minutes qu'il répète ça, tout le monde répète la même chose et ça finit par rentrer dans les têtes. Ce qui est intéressant aussi, ça c'est vachement intéressant parce que quand on est en Afrique et qu'on regarde les médias nationaux, parce que malheureusement il n'y a pas encore beaucoup de liberté d'information, quand on regarde la télévision nationale, que le FMI vient d'envoyer une délégation et que le FMI vient de décider de débloquer 20 millions, eh bien, la dame qui présente les informations le soir annonce ça comme un cadeau du ciel. Et jamais il n'est dit ou pensé que il va falloir les rembourser et que ça va coûter infiniment plus que ce qui est donné et que les conséquences vont être tragiques.
C'est-à-dire que les Africains, ce que vous dites, ne se rendent pas compte du problème, même s'ils ont du
C'est-à-dire que
mal, quoi.
ils sont mal informés. Il y a un vrai problème d'information sur le continent africain, ça c'est une évidence. Les journaux sont peu nombreux, coûtent cher en fait pour un salarié ordinaire, enfin pour un salarié, déjà quelqu'un qui a la chance d'avoir un salaire, ça coûte déjà assez cher. Il y a un problème de circulation des journaux, c'est-à-dire que généralement ils sont lus dans la capitale et puis ils circulent pas parce qu'il n'y a pas ce système de distribution. La télévision est nationale, donc forcément elle émet ce que le gouvernement veut bien faire passer comme information. Et donc sur la question de la dette, effectivement, il y a un problème d'information. Quand on va demander à un Camerounais ce que son pays rembourse, il n'en a pas une idée très claire. Il sait qu'il y a un problème, comme tout le monde. Hein. Toute l'Afrique, grosso modo, sait qu'il y a un problème avec la dette. Concrètement, quel est le problème? Quelles sont les proportions de ce problème? C'est pas si clair que ça. Et quand on leur dit, et c'était le cas notamment pour les musiciens, ils m'ont dit oui, faisons un truc sur la dette. Et puis 5 jours après, ils me rappellent, mais au fait, la dette, c'est quoi? Dans mon pays, ça veut dire quoi? C'est quoi les chiffres? Et quand je leur ai donné les chiffres, je suis allé chercher les chiffres pour eux. Ils m'ont dit, ah, c'est tant que ça? Ah bon? Ah bah oui, non, alors là, il faut faire quelque chose.
C'est impressionnant.
Ah oui, c'est impressionnant. Ça a tombé à la renverse. Quand c'est des 36% du budget national, notamment pour le Cameroun, qui partent dans le remboursement de la dette, c'est colossal. Quand c'est l'un des records du monde, c'est la Jamaïque, on est à 64,8% du budget national qui part au remboursement de la dette. Ça veut dire nos futurs. Clairement, ça veut dire comment est-ce que l'État va pouvoir continuer d'exister si les deux tiers de son budget part au remboursement de la dette. C'est ridicule.
Alors, ce CD, en fait, il est pas, enfin, c'est pas but commercial pour la production que vous dirigez. C'est un CD purement de soutien à une plateforme d'association d'annulation de la dette qui lutte pour l'annulation de la dette. Et parmi ces associations, si on a bien compris, il y a le CADTM, dont Denise est une des représentantes. Qu'est-ce que c'est que le CADTM? Comment c'est né? À quelle époque? Et où ça en est aujourd'hui?
Alors donc c'est le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est né en Belgique, disons, en 1990, 90 pour les Français, et suite d'ailleurs à une grande manifestation qui avait eu lieu en France lors du bicentenaire de la Révolution française. Mitterrand, qui était président à ce moment-là, n'avait rien trouvé de mieux à faire que d'inviter le G7 à Paris, hein, donc les pluristes, comme si le roi soleil revenait, hein, pour fêter la révolution française, donc un non-sens, une provocation incroyable. Et donc de ce fait-là, il y avait eu une immense manifestation, un grand concert avec Renault, et l'appel de la Bastille qui appelait à l'annulation de la dette du tiers-monde. Et nous, en Belgique, on n'a fait que relayer, on a invité Gilles Perrault, l'écrivain qui avait rédigé l'appel de la Bastille, pour faire une conférence. Il y a eu un monde fou, plein de gens intéressés, et là on a lancé l'idée, ben quoi, ici en Belgique, il n'y a personne qui s'occupe de la dette en particulier, faisons un comité. Et donc il a démarré tout de suite, vraiment très très bien, sur une base pluraliste qui était bien, des partis différents, des syndicats, des ONG, des associations, des individus. Donc ça lui donnait une assise large et pluraliste. L'idée, c'était, même si on n'est pas d'accord à la virgule près sur comment il faut annuler la dette, etc., c'est pas grave, mettons-nous ensemble et travaillons pour faire annuler la dette du tiers-monde. Alors là, on a dû d'abord se faire connaître, évidemment, en Belgique, mais d'emblée, on a eu l'idée de faire de ce mouvement quelque chose d'internationaliste. On s'est dit, la dette, c'est pas possible de cantonner un sujet pareil sur le territoire belge. Donc d'emblée, on a pris contact avec des personnalités à l'étranger pour les inviter lors de conférences. On a commencé à créer tout doucement comme ça une petite toile et qui, en fait, quand on regarde maintenant avec le recul, c'était au niveau des campagnes de la dette un peu une préfiguration de ce qu'est le mouvement altermondialiste maintenant. En fait, on était déjà en train de travailler un petit peu à cela, hein, et ce qui fait qu'alors, quand le mouvement altermondialiste est né, ben, on avait déjà une structure qui pouvait d'emblée alors travailler dans ce mouvement-là, prendre contact avec d'autres campagnes comme Via Campesina, la Marche mondiale des femmes, les campagnes contre l'OMC, et alors que la dette prenait là sa place, qui est une place quand même terriblement importante par rapport à l'avenir des populations, quoi.
Alors comment on lutte très concrètement contre la dette dans son petit coin de Belgique, dans son petit coin de Wallonie?
C'est un travail vraiment, en effet, au jour le jour. Il faut être prêt à répondre à toute demande au téléphone. Ça peut être des instituteurs ou des professeurs qui demandent si on peut passer dans une école. Ce sont des étudiants qui demandent des renseignements pour leurs travaux. Hein, ça peut être aussi des contacts étrangers qui disent « nous voudrions faire partie du CDTM, comment faire ?» etc. Mais le travail, c'est essentiellement d'abord de la recherche. De la recherche. Il faut vraiment étudier à fond toutes les données qui sont fournies par nos ennemis, je vais dire comme ça. FMI, Banque mondiale, oui.
Vous y passez beaucoup de temps, ça vous prend...
Beaucoup de temps.
C'est-à-dire ?
Beaucoup de temps. On peut dire que, je veux dire, quand je vois ces week-ends, ces soirées, en plus du travail, je veux dire, il y a pas d'arrêt. Il y a pas d'arrêt à ça. Il faut tout le temps s'informer. Il faut vraiment avoir tous les derniers documents pour pouvoir être à même, et ça c'est important pour nous, de pouvoir répondre rigoureusement dans un débat avec, par exemple, la Banque mondiale et le FMI, avec leurs chiffres à eux. Hein? Et donc, on n'est pas, nous, soi-disant, des humanitaires qui planent dans l'air. Non. Hein? On part de leurs documents et on leur démontre que leurs politiques sont vraiment néfastes et qu'elles créent vraiment le problème.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant les grands banquiers, vous faites face et vous leur dites « ça va pas ».
Exactement. Exactement. Et là, je crois qu'on a vraiment une spécificité. C'est reconnu, on est un mouvement radical. On ne fait pas du lobbying auprès de la Banque mondiale, etc., pour accompagner plus ou moins leur politique. Non, on a vraiment une position franche de dire ce que vous faites est vraiment criminel. Pour nous, c'est pratiquement des complicités de crimes contre l'humanité, ce qu'ils font comme politique. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut vraiment être à même un jour de pouvoir les mettre au pied du mur et les attaquer politiquement et peut-être même devant une cour pénale internationale un jour, qui sait.
Alors, ce serait très long de rappeler un petit peu ce processus de la dette. Si on pouvait rappeler les quatre étapes principales, puisqu'on a, nous aussi, on a bien révisé notre sujet. On vous donnera notamment une notice bibliographique à la fin de l'émission. Mais en tout cas, on voudrait que vous nous rappeliez autant François, ou même si vous pouvez, SOS Fin, mais on va en parler ensuite, sur les quatre étapes de cette dette, où ça en est aujourd'hui et comment on en est arrivé là et quelles conséquences surtout jusqu'où peut aller ce gros problème qu'est la dette.
Bon, mais d'abord, pour qu'il y ait un problème de remboursement de la dette, il a fallu qu'il y ait une dette. Hein. Qui est-ce qui a poussé à l'endettement des pays du tiers-monde? Pour nous, il y a trois acteurs principaux. Ce sont les banquiers privés, les banquiers commerciaux du Nord. Ce sont les gouvernements du Nord et c'est la Banque mondiale. Il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important, que la dette a été créée pour répondre à un problème qui existait dans le Nord. Il y avait une surliquidité hein, dans les banques du Nord. Il y avait toute une série d'investissements qui n'étaient plus faits par les entrepreneurs et les patrons du Nord parce que le taux de profit n'était pas suffisant. Autrement dit, l'argent dormait dans les banques, ce qui est infernal pour des banquiers. Donc, il leur fallait trouver de nouveaux débouchés. Et là, l'histoire fait qu'on était dans les années 60, 70, au niveau des pays africains, donc des indépendants de ces pays-là, avaient des besoins normaux pour tout pays qui accède à l'indépendance. Et donc tous ces banquiers se sont jetés à la tête des gouvernements en proposant des prêts de plus en plus intéressants puisqu'ils se faisaient concurrence l'un l'autre et qu'il fallait avoir le meilleur marché pour appâter le client. Même s'ils perdaient, dans un premier temps, c'était pas trop grave. Il disait qu'une fois que le client était bien accroché, après, il pourrait faire son beurre. Quoi.
Alors, quand on
ça,
dit...
c'est la première étape, la partie endettement.
Quand on dit banque privée, c'est qui? Parce que banque privée, c'est beaucoup de banques. Vous avez des noms particuliers?
Oui, mais ça, c'est par exemple la Manhattan Chase, des genres de banques comme ça, Barclays, des montagnes. Hein, de banques aux États-Unis en particulier, hein, on dit que par exemple pour le Brésil ou le Mexique, je me rappelle bien, il y avait 800 banques rien que des États-Unis qui avaient prêté à tour de bras et qui à un moment donné, quand est arrivé le problème, le choc, hein, la crise de la dette, se sont trouvées vraiment dans un état d'interrogation, en demandant ce qu'elles allaient faire, quoi, parce que tout leur argent était vraiment parti dans les pays du tiers-monde, en Amérique latine, en particulier à ce moment-là, puisque la crise a commencé en 1982 en Amérique latine. Alors là, c'est la deuxième étape. Hein, pourquoi est-ce qu'il y a eu une crise de l'endettement, eh ben ça vient de deux choses. C'est que pendant toute cette période des années 60-70, on avait dit à tous ces pays, vous vous endettez, mais c'est pas grave. Vous allez produire à fond pour le marché du Nord les matières premières, que ce soit agricoles ou autres, et avec l'argent, le revenu des exportations, pas de problème, vous remboursez la dette et vous avez même un surplus pour vous développer. Hein, parce que ça, c'était le discours qui était mis en avant. Vous allez pouvoir vous développer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tous les pays, en même temps, produisent du cacao, du sucre, du coton, etc., il y a une saturation des marchés du Nord qui fait que la denrée en elle-même perd de sa valeur. Et donc, sur quelques années, on a vu le prix de ces matières premières s'effondrer de parfois plus de 50%. Donc, perte de revenus. Et à ce moment-là, c'est ça qui provoque vraiment la crise, c'est qu'en 1979, Reagan décrète de façon unilatérale la hausse des taux d'intérêt pour l'Amérique. Et par effet d'entraînement, de contagion, puisque la puissance des États-Unis se répercute sur l'ensemble des économies, tous les taux mondiaux ont commencé à augmenter, mais très très fort. Pour les pays du tiers-monde qui devaient rembourser à ce taux-là, ben, perte de revenus et nécessité du jour au lendemain de rembourser 2, 3, 4 fois plus qu'ils ne le faisaient auparavant. Alors là, c'est la crise, l'impossibilité de faire face à l'échéance, quoi.
Combien de pays aujourd'hui sont concrètement concernés par ce problème et combien de personnes finalement en pâtissent?
Je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire tous les pays du monde sont concernés par ce problème-là. Et quand je dis tout, je tiens à préciser que les pays du Nord sont également soumis à ce régime-là. Et c'est très important de faire comprendre qu'ici, quand on lutte pour l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est parce qu'il y a une question d'urgence là-bas, comme François l'a démontré. C'est une urgence, hein. Mais en fait, dans nos pays, nous sommes en train de payer une dette publique énorme. Et cette dette publique, nous la payons quoi? Au détriment d'argent pour l'enseignement, pour la santé, qu'on détricote également dans les pays du Nord. La population s'en rend moins compte, bien que maintenant, hein, commence à avoir des signaux d'alarme un peu partout, parce qu'on a les acquis sociaux que nos arrière-grands-parents, grands-parents ont acquis pour nous, mais petit à petit, ce masque de protection est en train de devenir une galette tout à fait mince. Et en fait, c'est important de comprendre qu'il y a là un système qui est à l'œuvre et qui touche aussi bien les populations du Sud que les populations du Nord.
Radio Esperanza. Radio Esperanza. 106.2 FM.
Francis.2.
Qui est Francis quoi?
Monsieur.2.
J'ai connu des Francis, mais j'ai pas connu des points 2.
Radio Esperanza.
Tu remontes la manivelle tout au bout et si tu redescends un peu, tu vas tomber sur le 106.2.
Pourquoi il faut pas ça? Pourquoi il faut pas ça, les politiques?
Voilà, c'était à l'instant Denise et François. C'était en 2004, Étienne.
Oui, il y a des jingles qui tombent un peu mieux parfois, ça arrive. On est en ligne avec quelqu'un. Si ça arrive à marcher, ça buzz un petit peu, mais on va
Est-ce
réussir à s'en
entend,
sortir.
Myriam.
Est-ce
Bonjour,
que tu
Myriam.
Nous entends, Myriam?
Bonjour.
Bonjour, Myriam.
On t'entend parfaitement, c'est génial.
Myriam Bourgui du CADTM, tu es porte-parole, c'est ça, hein?
Oui, je suis secrétaire générale du CATM Belgique.
Voilà. Alors, si on t'a par téléphone, c'est tout simplement parce qu'on tenait à encore actualiser cette histoire de la dette et surtout ce qu'expliquait chaque année au micro. Et puis toi aussi, tu as pris le relais ensuite de Denise sur la dette du tiers-monde, puisque ça a été en 2004, en quelque sorte, le lancement de grosses thématiques ici au festival. Et donc, on en est où avec cette dette du tiers-monde? Parce qu'entre-temps, on t'avait réentendu, nous, sur la radio, pour nous expliquer comment ça se passait au Brésil, comment la Banque du Sud avait été mise en place aussi au Venezuela. Aujourd'hui, globalement, en résumé, j'aime pas beaucoup le terme, Myriam, mais c'est vrai, en résumé, on en est où avec cette dette du tiers-monde?
Mais donc, la dette des pays du Sud est toujours d'actualité, j'ai envie de dire, et malgré le fait que aujourd'hui, ce qui est à l'actualité, c'est la crise de la dette dans les pays du Nord. Ben, il ne faut pas oublier que la dette reste toujours quelque chose de très important dans les pays du Sud et une entrave au développement de ces pays du Sud parce qu'encore dans beaucoup de pays du Sud, le service de la dette, donc ce qui est consacré chaque année dans le budget au remboursement de la dette et au paiement des intérêts, représente encore 30% voire plus pour certains pays. Et donc l'endettement est loin d'être fini, et l'imposition de politique libérale par le Fonds monétaire international, même si celui-ci a moins de prise sur certains pays, mais la Banque mondiale reste encore très présente, et on voit aussi apparaître de nouveaux créanciers, que ça soit les banques régionales de développement, mais aussi la Chine, etc., qui imposent quand même d'autres conditions et qui en tout cas utilisent encore l'endettement comme mainmise, j'ai envie de dire, sur notamment les ressources de ces pays du Sud. Et donc, même si on a une évolution dans un peu la structure de la dette et dans certains créanciers, ça reste toujours un problème important qui entrave le fait que les populations puissent avoir accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, etc. Et on voit d'autant plus aujourd'hui encore les conséquences dramatiques des années de plans d'ajustement structurel, quand on voit aujourd'hui la famine, la crise alimentaire aussi il y a quelques années, et l'explosion de la famine dans la Corne de l'Afrique. Les politiques libérales appliquées par notamment la Banque mondiale sont une des causes qui amènent à ce phénomène, puisque du coup une grosse partie de l'agriculture locale a été détruite, ce qui a rendu encore plus dépendant les pays aux importations et donc au prix des marchés. Et aujourd'hui l'agriculture, les terres agricoles, etc. sont une source de spéculation et d'investissement énorme pour ceux qui détiennent les capitaux.
Alors, je me souviens quand on s'était vu la dernière fois ici à la radio dans l'abbaye, on avait discuté d'alternatives qui avaient été mises en place notamment par des gouvernements de gauche en Amérique latine. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces alternatives? Je pense à la Banque du Sud au Venezuela, mais je pense aussi à l'Équateur. On peut aussi discuter du Pérou. On a entendu encore la dette au Pérou avec l'accession du nouveau président au Pérou. Il a discuté de la dette. C'en est où toutes ces alternatives dont on a cru qu'on pourrait sortir, qui étaient des portes de sortie possibles?
Oui, alors du côté de la Banque du Sud, malheureusement, même si c'était une alternative très intéressante, malheureusement, c'est une alternative qui n'aboutit pas pour le moment. Et il faut bien avoir en tête aussi que dans la région, en Amérique latine, il y a des rapports de force qui font que la Banque du Sud n'a pas pu aboutir. Je pense notamment au Brésil, qui joue aussi un rôle à une autre échelle, bien sûr, mais un rôle un peu impérialiste dans la région, avec en essayant de développer au maximum ses entreprises pour qu'elles puissent investir dans les autres pays de la région. Et donc, pour le moment, c'est bloqué, la Banque du Sud. Donc, il n'y a pas d'avancement, et c'est bien dommage. Par contre, du côté de l'Équateur, donc là c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus positif, j'ai envie de dire, en tout cas au niveau de la dette. Et donc il y a eu un audit de la dette officielle qui a été mené pendant un an, entre juillet 2007 et septembre 2008, et qui a analysé justement toute la dette externe et interne du pays, et ce qui a amené l'Équateur justement à suspendre une partie de sa dette commerciale, donc vis-à-vis des banques privées, et de faire une très grosse économie sur le paiement, le remboursement de la dette, mais du coup aussi sur le fait de ne pas payer les intérêts, et donc de pouvoir libérer de cet argent pour pouvoir les mettre dans les budgets sociaux.
Myriam...
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de positif. Et maintenant, tout l'objectif, c'est de faire en sorte aussi que sur... d'autres points, j'ai envie de dire, du développement de l'Équateur, qui est aussi des changements, mais ça c'est une autre affaire.
Myriam, on parle beaucoup aujourd'hui de la dette dans les pays du Nord, notamment en Islande. On parle de la problématique de la dette en Grèce, en Espagne. Est-ce qu'on a la même problématique aujourd'hui dans ces pays européens qu'on l'avait il y a quelques années dans les pays du Sud, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent?
Donc non, c'est pas quelque chose de totalement différent. Et donc c'est intéressant de justement de mettre en valeur le parallèle entre les mécanismes qui sont appliqués. Et je crois que quand on regarde justement les politiques d'ajustement structurel qui ont été appliquées depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui dans les pays du Sud, et quand on compare avec le type de politiques qui sont appliquées dans le cadre des plans d'austérité, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose quand même de très similaire, où on a envie de faire payer la facture et où on fait payer la facture à la population. Et donc, dans ça, on voit bien que c'est assez similaire. On retrouve aussi le Fonds monétaire international, qui a joué un rôle clé pendant la crise de la dette pendant les années 80 dans les pays du Sud. Et comme par hasard, alors que cette institution a été complètement décrédibilisée après les années 2000, qu'elle n'avait presque plus de pays clients, eh bien, à partir de 2008, avec l'explosion de la crise financière, eh bien, c'est au FMI de nouveau que on donne la possibilité, enfin qu'on donne le rôle justement d'essayer de sauveur de cette crise, mais malheureusement un sauveur pyromane qui applique de nouveau des politiques qui attaquent directement les acquis sociaux. Après, bien sûr, quand on étudie justement le mécanisme de la dette dans les pays du Nord, bien sûr, il y a des spécificités qui sont propres aux pays du Nord, et que en l'occurrence, on se rend bien compte que cette dette, même si elle explose après 2008, après la crise financière, du fait notamment du sauvetage des banques, cette dette a toujours existé, j'ai envie de dire, dans ces pays du Nord. Et elle est notamment importante depuis les années 80, et elle est le résultat surtout de politiques fiscales qui ont favorisé les grandes entreprises, où derrière on a diminué énormément le taux d'impôt sur les sociétés, qui ont favorisé les plus riches, où on a diminué aussi le taux d'imposition sur les fortunes, sur les plus riches, et donc derrière où on a créé un déficit public, et où donc les États, comme la Belgique, la Grèce et d'autres, ont eu recours à l'endettement. Et avec, quand on regarde ça à partir de 2008, si on ajoute le sauvetage des banques, et ben forcément, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, en Europe notamment, mais aussi aux États-Unis, en étant les pays où finalement, c'est là l'épicentre de la crise de la dette.
Dans ces pays où l'État est en faillite, il y a moyen d'alléger la souffrance des populations aujourd'hui. On pourrait faire beaucoup mieux. Le FMI ne propose que des mauvaises solutions.
Oui, je crois que aujourd'hui, le FMI, mais avec la Banque Centrale Européenne, avec la Commission Européenne, ont décidé de sauver les banquiers, ont décidé de sauver ceux qui détiennent les capitaux. Ils n'ont pas décidé, justement, de faire en sorte de sauvegarder, j'ai envie de dire, les droits sociaux et les acquis sociaux de la population. Et donc, ce qu'ils proposent dans leurs solutions à chaque fois, ce sont des solutions en faveur des créanciers et donc du secteur privé de la finance. Et donc, je crois que aujourd'hui, comme ça a été le cas dans les pays du Sud, il est nécessaire et plus que nécessaire que la population se mobilise pour dire finalement, cette dette, elle est le résultat de politiques injustes qui ont enrichi les plus riches et qui ont appauvri justement la majorité de la population. Et donc, il faut arrêter de rembourser cette dette qui a aussi une partie d'illégitimité. Quand on étudie justement un peu en détail la dette dans certains pays, notamment en Grèce, on s'aperçoit bien que différents événements, contrats, etc., ont favorisé une minorité riche où il y a eu aussi beaucoup de corruption autour. Et pourtant, aujourd'hui, on demande à la population de se serrer la ceinture et de faire des efforts aussi bien dans l'éducation, la santé. On voit toutes les vagues de privatisation qui sont appliquées. Et donc, il est nécessaire de refuser justement cet outil qu'est la dette comme un outil d'appauvrissement des peuples, et de remettre ça en cause en faisant aussi de nouveau un audit de la dette. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut s'inspirer de toutes les expériences qu'il y a eu au Sud par rapport à ça, et de recréer aussi d'autres rapports de solidarité où c'est finalement les pays du Sud et notamment les mouvements qui peuvent aussi nous aider à faire le travail ici chez nous. Et sur base de ces audits de la dette, de refuser de payer la part illégitime de cette dette et de refuser que ce soit le peuple qui paye la facture.
Alors, on a vu que le CADTM travaille avec les gouvernements du Sud, parfois, comme en Équateur. On voit aussi que vous êtes présent à différentes rencontres internationales, que ce soit les forums sociaux. Bref, vous faites partie de ce qu'on appelle, dans le jargon journalistique, la société civile. Est-ce que c'est encore important pour vous de venir chaque année à Esperanza, comme vous allez le faire encore cette année? C'est un peu une question bête, mais je la pose quand même. Et deuxième question derrière, est-ce qu'il serait pas temps pour le CADTM de changer de nom? Parce que Tiers-Monde... c'est maintenant dépassé par ce que tu expliquais à l'instant.
Oui, donc bien sûr que c'est tout à fait important pour nous de venir à Esperanza, parce que dans notre conception, on ne doit pas agir seulement avec les gouvernements et être une organisation de la société civile, mais que notre projet en tant que CADTM, c'est vraiment d'être un mouvement social avec une base sociale et donc aussi avec une masse sociale qui est sensibilisée, qui a envie d'agir. Et donc ça passe bien sûr par la sensibilisation, par du débat avec les gens dans la rue, dans différents lieux, et notamment à Esperanza, parce que le festival se veut aussi être un lieu pour sensibiliser les gens, et bien sûr un lieu aussi de festif, de fêtes, de musique, etc. Mais aussi par la musique, on peut sensibiliser les gens. Et donc pour nous, en tant qu'organisation, CADTM, c'est un lieu important qui est toujours à notre agenda de venir à Esperanza, quoi. Après, sur par rapport à notre nom, mais c'est clair, c'est quelque chose qui est en débat à l'interne aujourd'hui. Cependant, vu aussi tout le travail qui a été fait et vu, j'ai envie de dire, toute la réputation qu'il y a autour du nom CADTM, pour le moment, on n'envisage pas concrètement de changer de nom. Mais c'est vrai que, vu le travail, c'est beaucoup plus réorienté sur la dette en général. Mais je rappelle quand même, c'est que malgré l'actualité et malgré tout le travail qu'il y a à faire dans les pays du Nord aujourd'hui sur la dette, on n'oublie pas de continuer à travailler sur la dette des pays du Sud, qui reste quand même important. Et aujourd'hui, quand même si le réseau CADTM s'agrandit en Europe, la majorité des membres du CADTM sont au Sud, aussi bien en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et donc, c'est important aussi pour nous de garder ce travail.
Merci beaucoup Myriam, on te retrouve donc, je sais pas toi personnellement, mais en tout cas le CADTM, on vous retrouve sur le festival. Je voulais terminer avec toi sur cette petite pause musicale qu'on a dénichée dans nos cartons d'archives avec Eric Toussaint, donc qui est aussi du CADTM Belgique évidemment. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était l'année où les Improvisators Dub étaient passés ici à Esperanza, et puis on avait mixé Eric Toussaint donc avec les Impro Dub. Eric Toussaint qui s'adressait, et c'est ça qui est important de savoir dans ce petit son qu'on va entendre, qui s'adressait à des membres éminents de la Banque mondiale et qui leur disait ceci. Merci Myriam au passage.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À ce week-end, à demain.
Du son, c'est du son sur Radio Esperanza.
De plus en plus, nous sommes face au défi de la réforme du système des Nations Unies. Nous avons le même défi au regard des objectifs du millénium. Naturellement, nous sommes en train de travailler pour apporter notre contribution au rapport du secrétaire général qui sera présenté l'année prochaine. Nous sommes en train de revoir l'ensemble de nos programmes, l'ensemble de nos structures et aussi bien les mécanismes de suivi et de revue interne que les mécanismes que nous avons mis en place au plan externe pour les situer dans le cadre du contexte des objectifs du millénium. et nous assurer que les différentes actions éparses de la FAO sont bien comprises et sont bien intégrées et que les États membres soient à même de voir quel est le rôle de la FAO, quelle est la contribution de la FAO au niveau de chacun des 8 objectifs du millénium. Nous pensons que cet exercice sera suffisamment avancé pour qu'au prochain comité de sécurité alimentaire en mai 2005, nous puissions présenter les conclusions aux différents organes et aux différents États membres, en commençant par le CFS.
Alors par rapport aux objectifs du millénaire, manifestement, ils ne seront pas atteints alors qu'ils sont déjà très timides. La pauvreté, on nous dit qu'elle a tendance à... Peut-être trop lentement, mais quand même, elle diminue. Mais soyons sérieux. Sérieux. Les deux pays qui permettent à la Banque mondiale de dire que le chiffre absolu de pauvres a diminué, c'est la Chine et l'Inde. Deux pays qui, selon la Banque mondiale, n'appliquent pas entièrement les recommandations de la Banque mondiale et du FMI, vous le savez très bien. Une série de mesures de contrôle sur les mouvements de capitaux, d'inconvertibilité de la monnaie chinoise, etc., etc., ne sont pas conformes aux recommandations de la Banque mondiale et du FMI. Et vous espérez bien, à la Banque mondiale ou au FMI, changer les choses dans le cadre de l'adhésion de la Chine et de ses conséquences à l'OMC. Et là, on verra si cette diminution de la pauvreté continuera en Chine ou au contraire, si le coût de l'intégration complète de la Chine au marché mondial dans les conditions actuelles du commerce mondial, augmenteront ou pas la pauvreté. Je crois qu'il y a un grand risque qu'elle l'augmente. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les régions du monde qui ont appliqué le plus radicalement les recommandations de la Banque mondiale et du FMI, à savoir l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et la Caraïbe, et l'Europe centrale et orientale, ce sont dans ces trois régions, d'après vos chiffres vous-même, les chiffres que vous fournissez, il y a eu une forte augmentation de la pauvreté absolue dans ces pays. Ce n'est pas en appliquant vos recommandations qu'on atteindra les objectifs. Deuxième point, la dette. La dette a nettement augmenté dans les deux dernières années. L'initiative pour les pays pauvres très endettés, vous êtes au courant certainement de la publication par le General Accounting Office des États-Unis d'un rapport extrêmement inquiétant et négatif sur le financement de l'initiative PPTE en parlant d'un gap. Une absence de financement extrêmement importante. Et donc de ce côté-là, le panorama est également extrêmement inquiétant. Et on peut se poser la question. On peut se poser la question, Aujourd'hui, il y a une légère... Bon, il y a une augmentation des prix des matières premières. Il y a un endettement renouvelé, important, une forte émission de bons de la dette publique. Donc il y a une croissance de la dette dans un contexte de taux d'intérêt relativement bas. On sait que les taux d'intérêt vont augmenter. Si les prix des matières premières qui sont volatiles repartent à la baisse, qu'est-ce qui va se passer dans un an, dans deux ans? Je vous pose la question et à mon avis, il y a de quoi s'inquiéter. Je termine par deux choses. À nouveau, il y a transfert net négatif sur la dette. Les pays, à tout point de vue de endettés, remboursent plus que ce qu'ils ne reçoivent comme nouveaux prêts. Et la Banque mondiale, c'est vrai pour la Banque mondiale depuis 1998. Vous recevez plus d'argent en remboursement que ce que vous octroyez comme nouveaux prêts. Vous le savez très bien puisque c'est vous qui vous publiez cela dans les World Debt Tables. Et dernier point, les inégalités s'accroissent. Et vous ne parlez plus du thème de la redistribution des revenus. Ça, c'était bon pour Olly Schneri, ça remonte il y a très longtemps, les années 70. Depuis les années 80, vous parlez de réduction de la pauvreté, mais vous ne parlez plus du problème de la distribution des revenus. Et tant qu'on n'abordera pas frontalement la question de la distribution des revenus dans les pays du Sud, dans les pays du Nord et entre Nord et Sud, on ne trouvera pas de solution.
L'œil écoute. Eh bien, je crois que parallèlement, on peut dire que l'oreille voit. Et l'oreille voit des choses, l'oreille peut voir des choses qui nous échappent.
Radio Esperanza.
À 15h20 sur Radio Esperanza, c'était le président de la FAO, Jacques Diouf, qui rencontrait musicalement le responsable du CADTM, Éric Toussaint, pour évoquer cette problématique de la dette des pays du tiers-monde, une problématique que l'on a abordée ici au Festival Esperanza en 2004, mais aussi en 2005, une problématique qui a vraiment mis en colère le chanteur Ray Lema lors de l'édition 2005. Vous allez écouter le coup de gueule du musicien congolais contre cette France-Afrique ou même cette Belgafrique qu'incarnait parfaitement au Zaïre le président, le dictateur Mobutu.
Ce qui distingue Jacques Foccart des autres amis, eh bien, il vous parle en ami et peut-être, je ne sais pas, parce qu'il connaît mon caractère, jamais lorsqu'il vous parle, vous sentez qu'il s'ingère dans les problèmes du Zaïre, tout ça, rien. Il vous dit, eh bien, président, ceci est mal vu à l'extérieur, eh bien, si vous continuez dans cette voie-là, ça ne va pas. Ça, il vous parle en ami.
Il y a une autre question qui préoccupe les opinions publiques européennes.
Oui.
C'est la question de votre fortune personnelle, d'une part, et de ce qu'on a appelé l'économie de prédateurs au Zaïre. Est-ce que les choses vont évoluer sur ce point-là?
Que le gouvernement français annonce à son peuple, tout comme le gouvernement belge, qu'on sorte des numéros de compte pour annoncer au monde entier et à mon peuple, voilà, telle banque, Crédit Lyonnais par exemple, il a 10 milliards, Banque Nationale de Paris, 14 milliards, et bien voici les numéros 20. Qu'on sorte cela.
Il n'y aura pas d'enquête sur les biens mal acquis en France. Une ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption avait déposé plainte contre 3 présidents africains au patrimoine jugé suspect patrimoine estimé à 160 millions d'euros. Eh bien, la plainte vient d'être jugée irrecevable.
Moi, ce qui me met en colère à ce moment, c'est que le temps que j'ai passé ici en Occident et le genre de personnes que moi je peux croiser aujourd'hui dans le monde, le paysage politique, par exemple en France, je sais que l'Occident a tous les moyens, et il les utilise, pour savoir à qui ils donnent l'argent. Et ils savent exactement tracer l'argent, la route de l'argent, quand cet argent revient ici. C'est-à-dire, c'est tout un business qui est installé. Voilà, c'est tout un business. On parle souvent de la corruption africaine, mais on ne parle pas assez de la corruption d'ici. Parce que tout cet argent qui va vers l'Afrique depuis des années, les gens qui sont en charge de donner l'argent perçoivent des choses, des commissions à eux. Et c'est pour ça qu'ils doivent donner ça à des gens qui marchent sur des commissions. Ça crée tout un paysage de les présidents à qui on donne cet argent en Afrique. Vraiment, les Occidentaux sont les premiers à savoir, c'est des escrocs. Pourquoi on leur donne cet argent? C'est parce que il y a des gens qui veulent bénéficier de cet argent. Et quand cet argent revient en plus ici, les Occidentaux voient dans quelle banque ça va. Ils savent exactement, vraiment, j'ai des preuves, j'ai des amis qui savent comment tracer ces histoires. Et c'est un système d'hypocrisie que je ne supporte plus parce que on parle de la dette africaine. C'est pas là les Africains qui sont endettés. C'est quelques présidents qu'on pourrait nommer. On pourrait les nommer vraiment, donner des noms. Monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. Mais on veut jamais les nommer. On dit la dette africaine. On peut les amener, les gens qui parlent de la dette africaine, pour qu'ils aillent en Afrique, qu'ils aillent voir où est-ce que l'argent est dépensé. L'argent est dépensé ici en Occident. La plupart de ces chefs, ils viennent mettre leur argent dans les banques ici en Occident. Un mec comme Bongo, il a une banque qui a pignon sur rue à Paris.
Actuellement, par exemple, les commissions européennes demandent vraiment, avant d'investir, que le pays ait une base démocratique, qu'il y ait une transparence politique. Justement pour pallier un petit peu à ces effets qui sont du passé. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça?
Madame, vous savez, la démocratie, c'est un mot qui est fait pour les riches. Même ici, là où vous vivez, ici, vous. Si aujourd'hui, vous êtes nez à nez avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, vous pouvez aller devant la législation, croyez-moi, vous serez niqué. Dans la démocratie, en toute démocratie, il va vous niquer parce qu'il peut se payer les meilleurs juristes. Donc, le mot démocratie, c'est périmé. Pour nous, Africains, c'est périmé. C'était vraiment un petit truc qu'on nous a jeté sous le nez comme ça. Ah non, attention, les Africains ne sont pas mûrs pour les démocraties. Excusez-nous, vraiment, excusez-nous. Ce mot-là, venez nous parler d'efficacité, venez nous parler de tout, mais pas de démocratie. Parce que ici, moi, je ne vis pas la démocratie. Non, je ne vis pas la démocratie. Les familles qui sont délocalisées, ici, dont les usines sont délocalisées, ils ne vivent pas dans la démocratie. Je vous jure, ces mecs se retrouvent sur la paille du jour au lendemain. Ils n'ont aucun recours, mais aucun. Et les patrons les regardent droit dans les yeux. De quelle démocratie on va parler? Donc, la France, c'est un pays vraiment qui est un champion des droits de l'homme, de plein de choses. Ben, aux dernières élections, nous avons publiquement, et ça c'est même chez les enfants, on leur disait, votez escroc pour ne pas voter facho. Nous avons voté Chirac parce qu'on ne pouvait pas voter Le Pen. Mais c'était écrit noir sur blanc sur des affiches. Votez escroc pour ne pas voter facho. Voilà le président que nous avons. Donc, excuse-moi, tu sais que quand nous avons entraîné nos enfants sur des slogans pareils, après tu viens le bassiner à propos de démocratie, l'enfant te regarde en te disant « Papa, mais tu te fous de qui ?» Et à ce moment, ce que moi je souhaite, c'est que le monde se réveille au mot « éthique ». On ne parle plus d'éthique. Actuellement, la seule éthique, c'est le dollar. Si tu produis du dollar, tout le monde est derrière toi, tout le monde est à genoux. Mais je pense que c'est une fausse éthique. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Aucun système n'a pu survivre avec une éthique pareille. Moi, je dirais, il y a une loi dans la nature qui fait que tout ce qui est mangeable est automatiquement mangé. Et je souhaite simplement l'Afrique s'arrange pour ne pas être mangeable. Et tout va s'arrêter. Tout va s'améliorer. Parce que l'Afrique aussi, il faut qu'on se responsabilise nous-mêmes. Nous sommes mangeables, forcément, il y aura des prédateurs pour nous manger.
On salue nos tweets auditeurs, Lunera Moon, Nkomb Albert et Isa Maria sur Radio Esperanza. Et on finit ce petit chapitre d'être avec l'année 2004. Il y a d'autres artistes qui étaient très sensibilisés à la problématique. C'était les Massilia Sound System, Le Papé et Tatou.
On est au 21e siècle, un tiers de la planète se gave et les deux tiers crèvent, et ça c'est inacceptable quoi. Et le problème pour nous occidentaux, c'est qu'en plus, tu es devant ta télé, tu vois les résultats, tu vois la misère, et tu dis pas rien, et en même temps tu sais que tu es complice, tu es responsable. Parce que quand tu payes un téléphone portable 1 euro, ben c'est parce que cet argent, la différence entre son vrai prix et le prix que nous payons nos produits de consommation aujourd'hui qui ne cesse de baisser, c'est parce qu'on exploite les autres pays comme ça. Et qu'on exploite non seulement les terres, les ressources minières et autres, mais aussi ben, la main d'œuvre de ces pays et des gens qui meurent au travail pour que nous ayons des biens de consommation de moins en moins chers. Quand j'y réfléchis, je flippe quoi.
Ce qui est marrant, c'est qu'en fait nos arrière-arrière-grands-parents, ils n'ont pas fait grand-chose, on va dire, contre l'esclavage, par exemple. Nos grands-parents, ils n'ont pas fait grand-chose contre la colonisation. Et ça serait un peu con si on faisait pareil, quoi, si on se... Et surtout que c'est un truc qui... parce que quand on parle de la dette, les gens ici, ils pensent toujours qu'il y a des pauvres qui leur doivent des francs. Non, mais c'est vrai, en gros, c'est comme ça, quoi. Les gens, ils voient ça comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une part, cette dette, elle a été remboursée déjà de multiples fois. C'est-à-dire que là, ils en sont en train de rembourser des emprunts qu'ils ont fait pour rembourser les intérêts, mais des fois d'autres emprunts qui étaient déjà pour rembourser les... Voilà, donc c'est déjà un truc, elle a été remboursée au moins 200 fois, mais je connais pas les chiffres exacts, mais largement déjà. C'est pas un énième don qu'on ferait à des... c'est simplement une volonté tout simplement de politique, de dire voilà, on annule le truc, on passe l'éponge.
Ce que je sais, c'est que cet argent que soi-disant nous leur avons prêté, on l'a gagné sur leur dos, mais aussi, c'est-à-dire nos banquiers... industriels et nos banquiers, ils l'ont gagné sur leur dos, mais aussi sur le mien, sur celui de mon père, sur celui de mon grand-père. C'est payé 4 fois.
Et déjà. En plus, c'est d'autant plus injuste que, on le sait, on le voit ici, c'est-à-dire ici, quand il y a des restructurations, des trucs comme ça, que le budget diminue, on attaque toujours en priorité, voilà, la santé, machin. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'avec la dette, les pays qui sont confrontés à ce problème de dette, c'est ça qu'ils attaquent en premier, c'est-à-dire on les oblige à faire des espèces de plans d'austérité pour rembourser ce truc. Et qu'est-ce qui broute en premier, qu'est-ce qui morfe en premier? Eh ben la santé, l'éducation, les trucs culturels. C'est-à-dire que en fait ça touche d'abord le peuple, vraiment. C'est-à-dire que c'est en plus injuste, même par rapport au pays, c'est aussi injuste, quoi. Et c'est encore une fois, c'est un truc qui pourrait vraiment être rayé d'un seul coup comme ça, simplement par une volonté politique, comme il y a des fois des volontés politiques pour s'attaquer à un tel ou tel problème. On le voit des fois, ça marche. Donc je pense que là-dedans, notre truc en tant que citoyen, c'est que là on a peut-être comme il dit Papé, des fois on regarde la télé puis on sait pas quoi faire, quoi. On peut peut-être faire un truc. C'est-à-dire que là, comme c'est directement politique, on peut peut-être influencer sur nos politiques pour leur dire « Oh les gars, là, maintenant, là, ce truc-là, il faut plus, quoi. C'est plus possible. Dans le monde où on vit, là, maintenant, là, il faut plus que ça existe. »
Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de leader africain, enfin de leader, j'aime pas trop le mot, mais d'homme politique africain qui ne s'élève pas aussi grandement que Thomas Sankara contre ça?
Je m'explique de la même façon qu'il n'y a pas de leader ici qui s'élève contre ça non plus. C'est-à-dire que c'est pas... En fait, tout le monde se voile la face. C'est-à-dire ce que disait Papé, c'est ça. Tout le monde se voile la face. Tout le monde n'arrive pas à se dire que ce qu'on croit avoir grappillé, en fait, on l'a pas grappillé à nos puissants. Ce qu'ils nous donnent, les petites miettes qu'ils nous donnent, ils vont les chercher ailleurs. Là, on voit des images de terrorisme, de trucs comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est toujours les mêmes qui sont victimes. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des pauvres et des défavorisés qui sont victimes là-bas qu'ici, il y a des pauvres et des défavorisés qui se font péter la gueule dans un train. C'est la même chose. C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est à nous ici et de l'autre côté aussi à dire ouais, ça suffit. C'est-à-dire justement c'est à s'opposer à nos leaders parce que ouais, parce qu'ils ouvrent pas loin.
L'Afrique, le problème c'est le fait que bon, ben, des États puissants de ce monde ont intérêt à continuer d'exploiter les ressources, notamment du sol et du sous-sol, et que ben, on continue de mettre en place des présidents fantoches en leur promettant avoir l'affaire El Fakitaine, je veux dire, au Gabon et ainsi de suite, et dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, où on met en place des fantoches en les abreuvant de millions d'euros, et puis voilà, et puis à la sortie, pareil dans d'autres pays où le pétrole coule à flot et d'autres richesses encore, c'est malheureusement chaque fois la même histoire.
Mais tout ça dure depuis des années, des années, et rien ne bouge, c'est pas un peu désarmant ça?
Moi je sais pas, parce que maintenant je suis un peu plus vieux, mais quand j'avais 17 ans, tu sais, je disais à mes parents, mais quand vous avez vu Hitler arriver, pourquoi vous avez rien fait, tu vois, je comprenais pas moi qui s'était pas bougé, les mecs.
Désinformation.
Et tout. Mais quand vous avez vu massacrer, vous avez rien fait, tu vois. Et là, je suis en train de m'apercevoir que quand mon fils il va avoir 5 ou 6 ans de plus, il me regarde, il fait, mais papa, mais putain, vous avez rien fait, tu vois. Et je vais regarder, je dis, on a rien fait, effectivement. J'en veux pas à mes parents pour ça, je sais très bien qu'ils ont rien fait, de la même façon que j'ai rien fait moi aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on a rien fait.
On n'y peut rien, quoi. C'est un sentiment.
Ben, c'est parce que déjà, on nous gave de trucs comme quoi on n'y peut rien à rien. C'est-à-dire que déjà, la volonté des hommes politiques, c'est pas tellement de nous faire participer au jeu, c'est plutôt de dire, vous savez, nous on s'occupe des trucs.
Faites-nous confiance. Hein, on gère.
Nous on a des bonnes idées, vous n'avez pas de très bonnes idées. Donc on est déjà comme ça. Chez nous, hein, c'est-à-dire les mecs, ils se demandent déjà s'ils pourraient réfléchir à la façon de se ramasser leurs ordures en bas de chez eux. Alors tu comprends quand ils se demandent ça, tu les confrontes à un truc. Alors là, ils sont perdus, les mecs. Ils disent, ben non, laissons parler les autres. Mais moi aussi, j'ai cette tendance-là. Je veux dire, c'est clair. Tu vas parler à l'homme politique. T'as pas envie d'aller débattre avec lui. Tu te dis, oh putain, il va m'enterrer. J'ai passé pour un con. Je passerai sans doute pour un con, d'ailleurs, parce que c'est truqué, le truc, quoi. Et c'est un peu le truc qui soutient Massilia, c'est-à-dire de dire aux gens, vous êtes capables. On est capables. Alors après, je sais pas si en disant,
capable de quoi?
Drop the debt, tu vois, les gens ils se sentent plus capables. Je pense que
capable
les gens plutôt capables d'avoir une bonne idée, de pas être des citoyens d'arrière, tu vois, d'arrière-garde, quoi. Des mecs, bon, on consulte de temps en temps, mais qui n'ont jamais de bonnes idées, quoi. Les bonnes idées, chez moi, les bonnes idées c'est à Paris, ici c'est pas à Paris, mais chez moi c'est à Paris, elles sont. Je pense qu'il y a une espèce de Paris, peut-être, hein, ici, où il y a des gens qui ont des bonnes idées, puis les autres non, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut renverser, ce truc. Il faut essayer de renverser. Alors.
Que les choses partent d'en bas, quoi.
Peut-être qu'en travaillant au niveau local, chacun chez soi, et en s'érigeant en collectif qui réfléchit devant sa porte pour les quatre rues qui t'entourent, et un peu plus large plus tard, on peut travailler à améliorer le sentiment que les gens peuvent avoir de la situation, la connaissance de la situation, leur situation proche, la situation mondiale qui est liée maintenant complètement, je veux dire, ce qui se passe dans ta rue est directement lié avec ce qui se passe à l'autre bout de la planète, de toute façon. Et cette conscience-là, elle doit se développer collectivement, et non pas avec un gourou qui va venir avec la sainte onction et qui va te dire, voilà, maintenant tu sais faire. Non, ça suffit pas.
C'est la base de la démocratie.
Voilà.
Quoi.
Oui, nous, les simples artistes, nous sommes là pour dire, branche-toi avec tes voisins, avec ta communauté logique, ta communauté non choisie, celle qui est des gens qui t'entourent, et puis essaye d'élaborer un petit quelque chose, un esprit collectif qui fait que ça peut constituer bout à bout, sur un territoire donné, et sur un continent et dans une société, une force de pression réelle.
Il y a déjà des belles réussites à Marseille, d'ailleurs, dans ce que vous avez fait, les Chourmots, etc., quoi.
Oui, c'est des réussites. C'est des réussites. Après, c'est jamais la réussite, parce que comme c'est un truc, ça joue chaque jour. Chaque jour, tu remises le truc, tu retournes sur le truc, parce que c'est compliqué. Parce que c'est pas facile, et puis surtout, on nous en a pas donné, je veux dire...
On invente tout, on a
pas de nos grands-pères, à nos pères, on leur racontait que c'était les derniers des cons, les derniers des ploucs. Donc c'est difficile, même intérieurement, c'est difficile de faire ce renversement, de dire, ben non, pourquoi je serais moins valable que ce mec-là, parce que je l'ai vu à la télé, parce que je l'ai vu au cinéma, parce que c'est ce truc-là qui est dur. Il faut aussi que les choses elles soient proches, là, dans le cadre du truc qu'on a fait pour cette annulation de la dette. Ce qui me plaît dans ce qu'on a fait, c'est que on y a fait participer un groupe de musique traditionnelle de chez nous. Et ce groupe de musique, là, j'étais il y a 4 jours dans un bal où les gens, il y avait là des gens qui dansaient, des vieux, des, je veux dire pas spécialement des types que tu vas trouver dans des manifestations altermondialistes, ni rien, tu vois. Et ben ces gens, ils dansaient la mazurka en écoutant les en écoutant ce morceau.
Et nous à Marseille, on en a même vu slammer sur la Talvera, quoi.
Ça slame aussi. Non mais je mais c'est vrai. Oui, mais ça c'est pareil, tu vois, c'est, ça fait partie du même truc. À un moment donné, il faut qu'on voie le monde réellement comme il est, qu'on arrête de penser avec avec ces espèces de lunettes qu'on nous a,
oui,
qu'on nous a
parce foutu, qu'il, parce qu'il est en même temps beaucoup plus laid que ce qu'on nous dit et en même temps beaucoup plus beau aussi. Et donc il faut y aller directement pour se faire sa propre idée déjà d'une part, voyager, bouger. À ce propos, il faudrait que les Européens ils arrêtent d'acheter des billets chez les hard discounters du voyage à bon marché aux Antilles, dans des pays justement dits sous-développés, parce que ça coûte pas cher d'aller passer 15 jours, voyage compris, sous les cocotiers à se gaver de je ne sais quel alcool et compagnie, sur les plages de sable blanc, parce que ça continue de participer de ce phénomène d'abîmer la planète d'une part, de rendre les gens dépendants de notre argent encore une fois et d'empêcher leur développement. Enfin, parce que dans l'histoire de la dette, il n'y a pas seulement à annuler la dette, il faut injecter énormément d'argent dans ces pays. Parce que ces pays sont aussi la proie au désir de, je parle des populations, d'accéder à la consommation. Et de plus en plus, et quand on y va, on se rend compte, ben, qu'est-ce qu'ils veulent? Comme toi, ils veulent un frigo, une clim, surtout dans les pays chauds. Ils veulent une voiture. Ils veulent ci, ils veulent là, ils veulent l'autre. Ce qui contribue à nuire à l'environnement, on le sait. L'effet de serre, le machin, ceci, le cela. Et comme ils n'ont pas trop d'argent, ben, ils vont aux solutions technologiques les moins chères. Et les moins chères sont les plus polluantes. Entre autres. Alors déjà, chez nous, on fait garde d'efforts. Mais alors imaginez un peu en Inde, quand ils font un engin qui roule à moteur, ils s'en foutent bien pas mal de ce qu'ils jettent dans l'atmosphère, parce qu'ils vont au système le moins cher et au carburant le moins raffiné, le moins cher aussi. Voilà. Et donc tous ces problèmes-là s'accumulent. Il s'agit non seulement d'annuler la dette, bien entendu, mais d'injecter énormément d'argent pour le développement dans le sens du durable et de la pérennisation.
Oui, des, j'allais dire dans le bon sens, il y a le truc... Moi, ma mère, si je lui explique la dette, par exemple, voilà. Ma mère, c'est pas spécialement une révolutionnaire, tu vois ce que je te dis. Si je lui explique la dette, elle me dit, ah oui. Tu vois, eh bien, il faudrait que tout le monde aille voir sa mère et lui explique. Et, ah oui, ben, la prochaine fois, je voterai si le type... Pour... Tu dis, maman, la prochaine fois, tu voteras pour le type qui te dira, quand je serai président de la République, je proposerai que la France, unilatéralement, en tout cas, annule ce qu'on lui... C'est des trucs de bon sens. C'est-à-dire, tu dis, les mecs, ils ont déjà remboursé trois fois, ils sont dans la merde. Ici, tu comprends. Tu comprends que tu coupes pas l'électricité des gens qui peuvent pas payer l'hiver. Tout le monde le comprend, ça. Hein. C'est pas une mesure de la
liberté. Ah non, mais ici, on est très fort ça, pour faire.
Alors,
pour
il faudrait que tu comprennes que c'est ça. Pareil dans le monde, quoi. Tu peux pas couper l'électricité à des gens qui en ont besoin.
Okay. Alors qu'il y a certains pays riches qui le font aussi pour la Chine, par exemple, où là, ça prend une autre dimension.
Oui,
mais ça, je pense que là, bon, c'est un truc global, il y a plein de problèmes dedans. Là, le problème de la dette, il faut l'isoler un petit peu parce que lui, il peut être réglé vraiment d'un claquement de doigts.
Festival Esperanza. Un festival pour ceux qui rêvent d'un autre monde, pour ceux qui croient qu'il est possible de croire en l'homme à travers la musique. Musique du monde.
Musica del mundo.
Une thématique. Annulons la dette.
Depuis plusieurs décennies, les populations du Sud sont écrasées par le poids d'une dette dont ils n'ont même pas profité et qui leur interdit tout développement. Ensemble, réclamons l'annulation de la dette extérieure publique des pays du tiers-monde et les politiques d'ajustement structurel.
Jamaïque, Belgique, Espagne, Sénégal, Russie, Inde, Mexique, Burkina Faso, Cap-Vert et Brésil. Tout le monde dans le même bain.
RadioTango.com